Bonjour, chers auditeurs d'Éteindre la lumière. C'est le Bruno du futur, celui qui a monté l'épisode. Je me permets un petit disclaimer. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de podcast. On a fait une installation comme on le pouvait pour enregistrer cet épisode. Et au montage, je me suis rendu compte qu'il y a des gros problèmes de son et que, voilà, il y a des bruits de table, il y a des câbles qui se entrechoquent tout le long de l'épisode. Donc je suis un peu désolé pour tous les bruits parasites que vous allez entendre. On tenait quand même à sortir ce premier épisode parce que c'est le pilote de ce qu'on espère être une future longue série. J'espère que ça vous plaira. Je vous laisse écouter ça. Bisous!
Courant 2020 ou 2021, l'équipe d'Éteindre la lumière s'était réunie autour d'une idée de podcast. Imaginez ensemble la suite d'un film culte. C'était tombé sur Indiana Jones, et si les concepts fusaient, on ramait particulièrement pour vous proposer un format écoutable et divertissant. Jusqu'à aujourd'hui, on l'espère. Il y a peu, j'ai eu l'occasion d'écouter le podcast Next Game du collectif Rerez, un podcast dans lequel deux intervenants s'affrontent pour proposer la meilleure suite imaginaire d'un jeu vidéo. Et parce qu'il me semblait nécessaire d'être transparent, le podcast que vous allez écouter s'inspire de Next Game pour le transposer au cinéma. Pour ce premier épisode, en cette année 2024, on a souhaité commencer par un hommage. Il y a pile 20 ans, un réalisateur nous quittait en nous laissant symboliquement comme dernier film une histoire émouvante avec comme toile de fond l'amour des histoires fantastiques et l'acceptation de la mort. Ce film, c'est Big Fish, et son réalisateur, c'est bien entendu Tim Burton. On vient de m'apprendre que Tim Burton n'est pas mort, donc je recommence. Pour ce premier épisode, nous avons décidé de travailler autour de ce génie créatif qu'est Tim Burton. 19 films, dont 13 adaptés de propriétés préexistantes et 2 biopics, tel est le palmarès de ce génie créatif qui, pour une raison que j'ignore, parvient pourtant à maintenir cette réputation auprès d'un large public. Tim Burton, aujourd'hui, n'est plus que l'ombre de lui-même. D'un amoureux délaissé pour compte qu'il peignait avec tendresse et humour dans des univers colorés uniques et immédiatement identifiables, il n'est plus qu'un amoureux du fric qui régurgite des bouillies d'images de synthèse sans odeur ni saveur et qui répète ad nauseam les mêmes idées déjà vues ailleurs. Suite, préquel, remake, tels sont des termes qui dirigent l'avenir cinématographique de Burton et de l'industrie hollywoodienne de manière générale. Croyez-moi, je n'ai plus le moindre intérêt pour ce qui peut sortir du cerveau brillant de ce génie créatif. Et pourtant, si vous nous écoutez à l'heure actuelle, c'est que c'est le défi du jour. Nos apprentis scénaristes auront la lourde tâche de satisfaire un spectateur particulièrement cynique qui a perdu tout attachement pour celui qui a pourtant été au cœur du cinéma de son adolescence. La consigne était la suivante. Imaginez une origin story, une suite ou une préquelle d'un film de Tim Burton. Il est maintenant temps d'accueillir ces deux joueurs qui s'affronteront aujourd'hui dans Pitch-moi si tu peux, Joël et Aurélie.
Bonjour.
Bonjour.
Mais quelle surprise, c'est vous, enfin.
Oh mon Dieu.
L'équipe d'Éteindre la lumière qui, dans un épisode spin-off, se réunirait pour faire un nouveau format. Alors, moi, j'ai une première question à vous poser. Ça va, le thème? Il vous a plu? Quelle a été votre réaction quand vous avez reçu ce thème? Sachant que vous connaissez mon désintérêt qui est né...
J'ai soufflé.
Avec les
j'ai
années...
J'ai soufflé du nez.
Je crois qu'on a eu la même réaction, on était genre... Ouais.
Alors, comme beaucoup de gens, j'ai été fan de Tim Burton pendant très longtemps, quand j'étais gamin, quand j'étais ado. Et puis, je pense que le dernier film que j'ai vraiment aimé, que j'ai pas revu depuis, c'était Charlie la chocolaterie. Sweeney Todd m'a un peu saoulé. Alice au Pays des Merveilles, c'est là où je me suis dit, ah, c'est fini pour moi, allez, salut.
Moi, j'ai quand même aimé typiquement Frankenweenie, tu vois, mais qui est déjà une version longue d'un court-métrage qu'il avait fait aussi par le passé. Je regrette quand même ces années... Enfin, quand j'ai réécrit cette petite intro un peu cynique, donc je suis retourné voir la filmo de Burton et je me dis, waouh, ce qui est quand même fou, c'est que c'est un gars qui nous a donné Édouard aux mains d'argent et qui nous donne Dark Shadows. C'est vraiment deux entités absolument diamétralement opposées pour moi qui n'ont pas du tout le même niveau de sincérité. Et aujourd'hui, vous avez cette lourde tâche, pardon, de me satisfaire, c'est-à-dire que je vais élire parmi vous deux celui qui fait le meilleur pitch du prochain Tim Burton.
Qui Quelle question.
Donc vraiment, je ne sais pas encore ce que vous m'avez préparé. On va être tout à fait transparent. Le but de ce format, c'est que je ne sais rien de ce que les deux ont préparé. Peut-être sans trop spoiler, quelles ont été pas vos premières idées, mais vous êtes tout de suite dit, Tim Burton, voilà ce qu'on aimerait y retrouver d'une manière ou d'une autre.
Moi, je crois que c'était tout de suite. Enfin, j'ai beaucoup aimé Tim Burton, comme vous. Je me suis arrêtée. Je pense que son dernier grand chef-d'œuvre, c'est Big Fish, même si j'ai beaucoup aimé Sweeney Todd. Et je voulais du fun. Parce que je trouve que ce que j'aime, moi, dans ses premiers films, c'était il y avait beaucoup de fun, à mon sens, en tout cas.
C'est-à-dire de la... Dans le rythme ou dans le...
Un peu tout, le choix des couleurs, le jeu de certains acteurs. Il y avait une petite folie que j'aimais bien. Et que je trouve qu'il a perdu au fur et à mesure avec les films de studio, où il est devenu plus une caricature que une personne qui inventait des choses ou qui avait une vraie patte.
Mais le truc, c'est que tu dis avec les films de studio, mais il a toujours fait des films de studio.
Oui,
depuis ses débuts, il a toujours fait.
Oui, mais je trouve qu'il avait une vraie patte qu'il a perdu un moment pour devenir un peu une trademark. Enfin, tu vois.
Ouais,
À un moment, ça a plus été sa signature, mais une sorte de stéréotypes ou de caricatures, voilà, ouais. de son propre travail.
Oui, il est devenu une caricature de lui-même. Ouais.
Mais là, pour le coup, on peut blâmer plein de choses sur les studios. Mais je pense que pour le coup, c'est un peu de sa faute à lui.
Sûrement.
Parce que quand tu l'entends parler en interview encore récemment, il dit « Oh, les studios font ci, font ça ». Mais il continue à bosser pour les studios, à faire les mêmes choses et les mêmes merdes qu'il fait depuis 10-15 ans. Au bout d'un moment, je trouve que c'est juste hypocrite de sa part de venir blâmer les studios quand lui aussi fait rien à côté pour sortir de ce système, quoi. Plein de réalisateurs qui en avaient marre de bosser pour les studios ont réussi à s'en sortir tout seul, à faire d'autres projets à côté. Il y a d'autres réalisateurs qui continuent à faire des films de studio qui s'en sortent aussi pas mal. Je sais pas, moi je trouve ça un peu hypocrite de sa part de blâmer tout ça sur les studios. Mais...
Alors, c'est d'autant plus rigolo que je ne vous ai pas demandé d'écrire un film à la Tim Burton. Je vous ai donné cette consigne horrible d'essayer de faire une suite ou une préquelle ou une origin story satisfaisante. Je pense qu'on va pouvoir y aller. Je sais qu'il y a une pression. Je voudrais... Non, mais je vais essayer de détendre l'atmosphère.
J'ai l'impression d'être à la fac et de devoir faire mon exposé de fin d'études et j'ai mal au ventre.
Je vais essayer de détendre l'atmosphère en précisant à nos auditeurs qu'on est des spectateurs comme vous. Aucun de nous n'est auteur. Aucun de nous n'est scénariste.
On n'a pas la prétention de l'être.
Pas du tout.
Donc, dans tous les cas, on essaye de faire de notre mieux. Mm-hmm. Et je pense qu'on va tout de suite écouter... Je vois tout de suite Aurélie qui me dit « Joël, Joël ».
Mais non, mais parce que on a décidé...
Donc, on va écouter le pitch de Joël.
On commence avec le logo de la Warner. Le logo disparaît, mais le ciel reste. Un panoramique vers le bas. Et on dévoile le Gotham City de Tim Burton, dans toute sa splendeur néo-gothique. Dans une séquence qui renvoie à l'introduction de Gotham City du premier film, on retrouve la ville iconique qui célèbre Halloween. Les rues sont décorées pour l'occasion, on trouve des citrouilles géantes à chaque coin de rue, des épouvantails accrochés à chaque lampadaire. On peut voir aussi des affiches du maire Harvey Dent souhaitant un joyeux Halloween aux habitants de Gotham. Dans les rues, tout le monde est déguisé. On aperçoit des Batman, des Catwoman, des pingouins, mais surtout beaucoup de Joker. Cette séquence d'introduction se termine sur un plan de la Banque Nationale de Gotham qui explose soudainement. En sortent une dizaine de criminels déguisés en clowns. La police arrive, mais suit les balles de ce gang connu sous le nom de Jokers, avec un Z, parce que c'est les années 90. Ils sont tous habillés dans des costumes qui rappellent le Joker, sans être exactement son costume original. Le commissaire Gordon, qui est présent, n'a pas d'autre choix que de hurler dans sa radio « Allumez-le, bon sang !» Ou alors dans le ciel noir et pollué de Gotham, le bat-signal dans les nuages. Dans une cave sombre et humide, une silhouette se jette dans la Batmobile, gros plan sur les yeux de Batman, au regard déterminé, démarrage du bolide. Un plan large arrière de la Batmobile qui part en trombe. Elle crache des flammes, et puis on a le titre « Batman Continues ».
Ok. Donc là, on a eu notre petite scène d'intro donc de Batman Continues. Sans surprise, Joël est parti sur Batman. J'ai eu une petite hésitation. Je m'étais dit Pee-wee, un petit Pee-wee. Mais non,
Pas choisi Pee-wee parce que Pee-wee a déjà eu deux suites qui n'ont pas été réalisées par Tim Burton. Je me suis dit que c'était pas nécessaire. Puis j'avais pas d'idée vraiment d'une suite à Pee-wee. Alors que Batman, Tim Burton qui n'a jamais fait de troisième film Batman. qui n'a pas pu conclure de trilogie, j'ai toujours eu un peu cette frustration de ne pas l'avoir vu. Tim Burton n'avait pas été rappelé pour le troisième volet. On aura donc, ce que je disais, on aurait été privé de plusieurs promesses qui m'ont beaucoup frustré. Le premier film de Burton, c'était plutôt un film de super-héros à sa touche, alors que le second était vraiment un film de monstre bizarre, noir, poétique et un peu libidineux. Donc j'imagine qu'au lieu d'avoir été renvoyé par la Warner, ils l'ont plutôt tapé sur la main et lui rappelé à l'ordre. Même si je trouve que Batman le défi est un meilleur film que le premier Batman, je verrais plutôt un retour aux sources, entre guillemets, pour ce troisième épisode, avec un seul méchant. Et le retour aussi de ce qui manquait dans le 2, mais la présence de la pègre dans Gotham City. Pour ce pitch, je me suis inspiré des idées d'un troisième film qui ont été dévoilés ces 20 dernières années, comme l'introduction de Robin, qui aurait été joué par Marlon Wayans. Je me suis aussi inspiré d'éléments de la série animée des années 90. Un peu de Batman, la relève aussi, donc une autre série animée qui se passe dans le même univers que Batman, la série animée. Et aussi de Batman 89, qui est un comics qui fait suite, qui est la suite officielle de l'univers de Tim Burton. Mais je ne me suis pas inspiré non plus de tous ces éléments, parce qu'il y a des trucs qui ne m'ont pas du tout intéressé. Et que je suis parti sur autre chose. Donc tout ça, on oublie un peu l'univers, enfin les films de Schumacher, on oublie tout ça et on repart
et
sur...
Et on oublie un peu le deuxième, c'est ça ?
Non, non, non.
Ok, ok. Oui, bah, tu as quand même dit qu'il y a les costumes du pingouin.
Il y a les costumes du pingouin, ça reste... ce que je voulais dire, c'est que...
Le ton est plus proche du premier.
Le ton est plus proche du premier. Okay. On a un côté un peu plus comic book. C'est juste que, voilà, on repart pas sur ce côté complètement timbré qui était le deuxième. Mais on garde quand même... des choses, enfin il y a des éléments qui sont restés. Alors mon intention c'était aussi d'imaginer un film Batman qui se passe vraiment, enfin un film vraiment des années 90, avec le style néo-gothique qui clash avec l'urbanisme des années 90, là où le centre historique de Gotham a ses grandes tours, ses grandes statues, tout ça, mais on commence un peu à voir les quartiers populaires autour de la ville qui ressemblent plus aux quartiers populaires de New York par exemple, genre Harlem, le Bronx, le Brooklyn, le Queens, tout ça.
Ok.
Voilà. J'ai mon casting.
On verra peut-être après la question du casting. Non, mais je ne sais pas si tu as un peu plus étoffé l'histoire, parce que là, on a eu l'introduction des Jokers, et on a une mention d'Harvey Dent. On sait qu'Harvey Dent, il était déjà introduit dans le premier, il n'est jamais revenu. Donc j'imagine que tu vas étoffer un peu ça.
C'est ça. En fait, je continue mon pitch.
Ouais,
vas-y,
on t'écoute.
Voilà. Donc j'imagine que là, à partir de... Il y a le titre qui est apparu, on a un générique. Où c'est un montage de la course-poursuite entre la Batmobile, les flics et le gang des Jokers, et se termine sur un plan héroïque de Batman capturant les criminels après une baston, tout simple. Dans ce montage, on verra des plans de passants où la Batmobile roule à fond dans les rues de Gotham, dont un passant qui ressemble fortement à Marlon Wayans. Une fois l'adrénaline remontée, Batman retourne à sa Batmobile et découvre que les pneus ont disparu. Ça va être un peu un running gag dans le film que les pneus, à chaque fois qu'il s'abattoie, il revient, les pneus ont disparu. On coupe sur un jeune qui revend des pneus dans une allée du quartier pauvre de Gotham. Il s'agit de Dick Grayson, un ado de 16-17 ans, joué par Marlon Wayans. Rentrant ensuite dans son appartement délabré, on a un panoramique des murs de son appartement où l'on aperçoit des affiches de cirque, des photos et des articles de journaux des Flying Graysons. On apprend qu'ils ont été renvoyés du cirque à cause de leur addiction au jeu. Dick donne l'argent de la vente à ses parents afin de les aider à rembourser leurs dettes envers un gangster. Toujours dans le premier acte, on retrouve Billy Dee Williams, qui reprend son rôle d'Harvey Dent, cette fois le maire de Gotham City, dans un bal de Thanksgiving organisé par Wayne Enterprise. Voilà, en fait, je voulais que ça se passe aussi dans une autre période de l'année qui fait fête et qui fait sens aussi un peu. En fait, je me suis rendu compte que tout ça, je me suis aussi inspiré de Batman le long Halloween, qui est aussi un comics, il y avait introduit le personnage.
Ouais, je me suis demandé si c'était une référence volontaire.
Ou pas, non, c'est juste que bon, je pense que je me suis inspiré inconsciemment.
Ok.
Donc, parce que le premier se passait, c'était les 200 ans, 200 ans de Gotham. Le deuxième, c'était un peu Noël, tout ça. Et là, je voulais Halloween, pour garder un peu ce côté.
Et ça permet d'avoir des rues thématisées un peu.
C'est ça, voilà. Ouais. Puis voilà, je suis allé, je vais mettre des épouvantails sur les lampadaires. Ça fait une référence sans vraiment être... une présentation du personnage. Donc, le bal est organisé par Wayne Enterprise. Pardon. Il y aura des scènes entre Bruce Wayne et Harvey Dent qui montrent leur amitié, quelque chose qui n'a pas pu être vraiment présenté dans le premier, du coup, qui a été coupé du deuxième, parce qu'il devait aussi apparaître dans le deux, Harvey Dent. Harvey Dent a toujours à sa main sa pièce fétiche. Et dans ces moments de colère où tu sens qu'il y a une part sombre, c'est à ce moment-là où il joue vraiment avec sa pièce. C'est ce que j'aimerais voir dans ce film. Ensuite, Harvey Dent présente sa nouvelle petite amie, sa fiancée même, qui est Selina Kyle, mais Michelle Pfeiffer qui revient.
Ok.
Bruce prétend ne pas la connaître, mais sa réaction évidente à la vision de Selina prouve le contraire à Harvey, qui cache donc sa jalousie comme il peut en jouant avec sa pièce. Dans cette scène de bal, le commissaire Gordon présente quant à lui sa fille Barbara, jouée par Winona Ryder. J'ai essayé de retrouver des acteurs qui ont joué fréquemment avec Tim Burton pour caster des nouveaux personnages. Et Winona Ryder, qui est une ado, enfin que le personnage de Barbara, qui est une ado, qui arrête pas de déblatérer sur Batman, mais Bruce n'écoute pas et continue de regarder complètement sidéré Selina qui s'éloigne au loin. Harvey, dans ce film, lui, veut absolument amener le gang des Jokers qui sévit depuis quelques mois devant la justice coûte que coûte. Donc, ce que j'ai pas dit par rapport aux Jokers, c'est que je me suis inspiré du gang des Jokers qui vient de Batman La Relève, qui est un gang qui s'inspire de Joker, tout ça,
okay.
Qui ont tous des costumes différents, mais qui ont toujours ce côté visuel qui rappelle Joker, donc des vestes violettes, des côtés clown, tout ça.
Et j'imagine qu'ils sont un peu montrés un peu comme les premiers vilains, mais c'est plus une mise en bouche de montrer la pègre dans Gotham.
C'est ça.
Et il va y avoir un vilain un peu plus marqué. Pour l'instant, je ne sais pas encore si on part sur double face ou pas.
Dans une autre scène, j'ai pas forcément de lien entre chaque scène. Hein. C'est
c'était pas l'idée.
Déjà, ouais, t'as des scènes.
Déjà, t'as des scènes. Je trouve que t'as beaucoup de scènes.
Ouais.
J'ai un peu bossé dessus. Ouais.
T'as 20 minutes, hein, Joe.
Mais non, mais j'essaie d'aller plus vite. On aurait une scène entre Batman, Dent et Gordon qui ont une piste sur le leader du gang qui serait Sal Maroni. Un mafieux qui était dans le gang original du Joker. Et juste après cette rencontre, on voit Batman qui se jette du haut du toit du commissariat, vu que la rencontre se passe là. Plonge dans sa boîte mobile. Après l'avoir démarré, il se rend compte que les pneus ont disparu une fois de plus. Et c'est à ce moment-là qu'on retrouve on retrouve Dick, qui rentre chez lui avec une liasse de billets. Il entend de l'agitation et découvre ses parents morts au sol, parce que pendant que deux malfrats retournent l'appartement à la recherche d'argent. Quand les deux assassins remarquent la présence de Dick, sous le choc, il lui explique que ses parents n'ont jamais remboursé leurs dettes et ont remis le peu d'argent qu'ils avaient en jeu, ce qui a augmenté le trou de leurs dettes et fait atteindre les limites de la patience de Sal. Ils lui prennent la liasse des mains et ajoutent qu'ils attendent que ce soit Lee qui rembourse les dettes, où il aura le même destin que ses parents. De l'autre côté de la ville, une bijouterie se fait cambrioler par les Jokers. Batman les poursuit jusqu'à leur repère et se retrouve encerclé par une trentaine d'hommes de main déguisés en Joker. Du coup. Alors qu'il commence à être submergé par le nombre d'ennemis, Catwoman débarque pour lui filer un coup de main. Batman lui demande pourquoi est-elle revenue, elle lui répond qu'il était temps, je ne sais pas si vous vous rappelez de la fin du 2, elle était sur sa dernière vie, on la voit regarder le bat-signal, le film s'est terminé comme ça. Et du coup, elle disait qu'il était temps de vivre sa dernière vie pleinement. Entre-temps, Dick débarque en moto, sur laquelle est attaché un sidecar, où il veut embarquer les pneus, c'est à ce moment-là qu'il se dit, tiens, la Batmobile est arrêtée, et commence à démonter les pneus. Une balle perdue traverse une vitre de l'entrepôt où se cachaient les Jokers, où la baston se passe, et touche Dick. Blessé et apeuré, il se cache dans la Batmobile. Le combat entre Batman, Catwoman et les Jokers se termine. Batman capture Sal Maroni et le livre à la police qui débarque bien entendu au dernier moment, pendant que Catwoman se tire avec l'argent de Maroni. Dick, toujours caché, voit Maroni se faire embarquer par la police et le reconnaît comme étant l'assassin de ses parents. Batman revient à la Batmobile et découvre Dick qui perd du sang dans sa voiture. Comprend que c'est Dick qui vole ses pneus depuis quelque temps, mais ne dit rien et l'emmène avec lui dans la Batcave pour le soigner. Pendant que Dick est en convalescence, Bruce enquête sur Dick, sur son passé, et découvre son passé au cirque, les dettes de ses parents, leur meurtre aux mains des hommes de Maroni. Et on a Alfred qui tisse aussi des liens pendant ce temps avec le jeune Dick. Et sous la pression d'Alfred, Bruce raconte la vérité sur sa vie à Dick.
Oui, il y a forcément ce parallèle des parents tués.
Voilà, la mort de ses parents, sa quête de vengeance, le Joker, etc.
Okay.
Dick est en colère, mais Bruce le convainc que sa colère ne doit pas le consumer, que Maroni sera traduit devant la justice, mais il pourra quand même l'aider à canaliser sa colère, son désir de vengeance, et Bruce adopte, entre guillemets, Dick et commence son entraînement. Harvey passe au cran supérieur et commence le procès de Maroni. Dent reprend son ancien rôle de procureur parce que c'est pas au maire de participer au procès et questionne Maroni. Bruce est dans la salle en civil avec Dick. Bruce et Dick s'assoient à côté de Selina, Gordon et Barbara. L'interrogatoire est de plus en plus intense jusqu'à ce que les portes du tribunal explosent et des Jokers débarquent dans la salle parce que dans ma tête il y a genre 1000 Jokers dans la ville. Il y a genre, c'est vraiment le côté cartoon où plein de gens. ils peuvent arrêter une trentaine de jokers si on aura toujours en plus. Bruce, Selina et Dick essayent d'évacuer la salle. Barbara se fait cibler par les jokers, comme étant, vu qu'elle est la fille du commissaire. Elle arrive à se défendre avec quelques coups d'arts martiaux bien placés, mais elle est vite dépassée et sera sauvée par Dick. À deux, ils se débarrassent de quelques jokers et parviennent à finir l'évacuation de la salle. Et dans la confusion, Maroni jette de l'acide sur Harvey et s'enfuit avec son gang. Et c'est la fin du premier acte. Voilà. C'est le premier acte, c'est ce que j'ai le plus écrit des
trois. Ouais, bah ouais, parce que là, j'étais en train de me dire.
C'est riche, là. Ouais.
C'est intense. Oui.
On est premier acte, ok.
Il s'est passé un million de choses. Oui,
oui. Et il te reste plus beaucoup de temps, Joe, à me pitcher. Donc, ouais.
Non, mais voilà, je voulais un premier acte.
Donc, double face.
Double face. On est okay. Parti sur double face, le seul méchant du film.
Ok. Okay. Qu'est-ce qui va. C'est certainement ce que tu vas expliquer maintenant. C'est. Comment est-ce qu'il va devenir le grand méchant ? On sait qu'il y a eu du petit teasing de sa part sombre et de sa jalousie envers Bruce.
Voilà,
Wayne.
C'est ça. Okay. Et donc j'ai moins planifié le deuxième acte, j'imagine. Voilà, dans cette scène-là, on a Harvey qui est hospitalisé. Il remarque la proximité entre Bruce et Selina, ils sont de plus en plus dans la tourmente et la paranoïa. Tout ça culmine quand il voit à la télé que Maroni est en fuite et son gang a repris les attaques. Harvey s'enfuit de l'hôpital dans une séquence qui s'inspire des films de monstres d'Universal, tels que Jekyll et Hyde, mais aussi d'expressionnistes allemands où Burton pourra se toucher la nouille. Il essaie de se cacher de la vue des passants et finit par s'abriter dans un immeuble abandonné. Donc voilà, c'est vraiment toute une scène où il est dans la rue en train d'essayer de se cacher. Tout le monde le reconnaît. Lui qui était tellement vain à la base et qui adorait sa propre beauté, tout ça. Enfin bref. Et donc là, après un premier acte intense, le deuxième acte sera plus centré sur les personnages, sur l'entraînement de Dick, la romance de Bruce et Selina qui revient, l'obsession de Barbara pour Batman. Dans ses enquêtes, elle retrouve un bat de grappin sur un lieu d'affrontement qu'elle cache dans son manteau de flic.
Oui, d'accord, ça va servir plus tard, quoi. Petit fusil de Tchekhov, là.
Petit bat de grappin de Tchekhov.
Le célèbre.
Et donc, on aura aussi des scènes entre l'amitié entre Dick et Barbara. Et enfin, un plan héroïque de Robin en costume. On verra aussi Double Face qui démantèle petit à petit le gang des Jokers en tuant chaque lieutenant de Maroni avec en parallèle Robin qui enquête sur sa cachette aussi à Maroni. Robin finit par rencontrer Double Face et il y aura tout un speech du côté, tu sais, Robin, on n'est pas si différents, toi et moi. Et Robin finit par douter de son envie d'épargner Maroni. Et on finit sur le deuxième acte, sur un affrontement entre Batman et Robin. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une baston, c'est juste un affrontement de...
Ça s'engueule, quoi.
Ça s'engueule, quoi.
Mais t'es pas mon père, de toute façon.
Tu sais pas ce qui m'arrivait. Mais si, je sais ce qui m'est.
J'ai vécu la même chose, Robin. Dick. Robin, oui.
Bon, et là, j'ai le troisième acte. Enfin, c'est juste un paragraphe.
Ouais, vas-y, je veux savoir où on va. Parce que là, d'un côté, on a... J'ai le sentiment Double Face qui va peut-être récupérer quand même une partie des Jokers pour son gang, j'imagine, peut-être. Et de l'autre côté, ils sont entraînés. Mais là, j'ai envie de voir, il y a un truc que j'ai envie de comprendre, c'est la menace que représente Double Face.
Bah, la menace, c'est une menace personnelle pour Batman, comme il est son ancien meilleur ami, entre guillemets. Le dernier acte rappelle celui de Batman Forever, où Double Face donne, mais cette fois Double Face donne le choix à Batman entre sauver Maroni, parce qu'entre temps Double Face et Robin auront capturé Maroni, et au lieu de tuer directement Maroni, Double Face se doute qu'il peut aussi manipuler Batman, comme il a vite compris que Robin était avec Batman. Il donne le choix entre sauver Maroni pour le traduire en justice, ou alors Barbara Gordon, la fille du commissaire. Le lieu est moins, c'est un lieu moins grandiloquent que dans Batman Forever où c'était la cachette du Riddler. Enfin, c'est un truc. Là, c'est juste tout simple, en haut d'une tour. C'est là où ça se passe. Et voilà, on reste dans cette idée de hauteur. Et dans un moment de subversion de la scène finale de Returns, où Batman se enlevait son masque pour montrer son identité à Catwoman, ici on a Batman qui enlève son masque pour essayer d'apaiser son ami. Sauf que Dent lui répond qu'il savait que Bruce était Batman depuis longtemps, et il lui tire une balle dans la tête. Sauf que bon, la balle lui rafle la tête, mais Batman est sonné pendant quelques instants. On voit que Barbara est choquée par la révélation que Bruce est Batman. Il comprend que Dick est Robin. Batman à terre, Double Face donne le choix entre Barbara, du coup son ami, ou Maroni, l'assassin de ses parents. Robin hésite, regarde Barbara qui lui fait un signe de tête avant que Dent ne la jette ainsi que Maroni dans le vide. Robin plonge et sauve la vie de Sal Maroni, tandis que Barbara utilise le bat de grappin de Tchekhov, qui se cachait dans sa veste, pendant que Batman, lui, revient à lui et capture de Dent. Une première dans la saga où il bute pas le méchant à la fin. Voilà, sauf que le petit truc, c'est qu'à la fin, le bat de grappin rate sa cible. Et Baba pense qu'elle va mourir, elle ferme les yeux. Sauf qu'on entend un craquement de fouet, elle est sauvée par Catwoman.
Nice.
Bon, après, voilà, j'ai pas trop la fin. On a Batman et Robin qui se rabibochent, Dent qui est envoyé à Arkham. On va partir sur Barba qui a envie aussi d'en apprendre plus sur Batman et sur Bruce Wayne. Et donc, on a aussi des petites graines de Batgirl pour une suite. Donc, le plan final, je vois un peu le plan, comme le plan final de Batman, le premier où Gordon allume le Bat-signal, puis on voit Batman sur une gargouille en train de regarder le Bat-signal, mais avec Robin, du coup, avec la présence de Robin à côté de lui. Et on se termine sur ça.
Je donne pas encore mon avis hein, pour l'instant. J'aurai ma petite partie une fois qu'on aura les deux pitchs. J'ai quelques questions.
D'accord.
Je sais pas si toi, t'en as aussi ton côté.
Pour l'instant, non.
Moi, j'ai une question majeure qui est, en dehors de cette séquence Harvey Dent, monstre à la Universal, la fuite, la touche Burton là-dedans. Qu'est-ce qui, pour toi, va donner l'identité Tim Burton-esque en dehors du Gotham qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vu dans ces deux précédents? Et en dehors de cette scène de monstre, quelle est la sensibilité burtonesque là-dedans?
C'est une bonne question, je n'ai pas la réponse.
Ok, parce que ça parle beaucoup en termes d'inspiration du cartoon, de certaines séquences des autres films, et en moins clinquantes, en moins, tu vois. Mais j'ai eu par moments, pour l'instant, c'est le meilleur indice que je donne, du mal à identifier l'aspect plus burtonesque, on va dire,
fait,
de la chose.
Le truc, c'est que vraiment, toute cette identité burtonesque, je la mettais sur la scène de d'Harvey Dent.
Oui,
et
j'ai très bien compris.
Si, quand on a cette scène, qu'est-ce qui reste? Je sais pas, moi.
Non, mais j'ai très bien compris qu'elle était là pour dire il y a quand même un passage avec des monstres, un petit peu. Mais ok. L'autre point, il est plus de l'ordre, parce que j'ai eu un peu de mal à l'identifier. Quelle est la thématique du film, tu vois, enfin...
C'est cette histoire de vengeance et ce parallèle entre Robin et...
Le thème, c'est la vengeance. Tout le monde est animé par un truc de vengeance. Voilà. Et ils vont tous traiter ce besoin de vengeance d'une manière différente.
Je pense que, aussi, j'ai pas trop... Je l'ai pas noté, mais je pense que... J'imagine aussi que Catwoman a aussi c'est différent avec Maroni, et c'est pour ça qu'elle s'attaque aussi à son argent, et qu'à un moment, elle lui pique son argent. Mais voilà, aussi ce film, j'aurais aimé que ce soit vraiment l'histoire de Robin, en fait.
Okay.
C'est pour ça qu'on a son point de vue assez souvent dans le film.
D'où une implémentation un peu plus marquée du Bronx, enfin
c'est pour ça
du centre-ville de Gotham.
Ouais, voilà, c'est pour ça que, c'est ce que je disais, je veux vraiment qu'on sorte un peu de ce côté Burton, Gotham City, gothique, tout ça, et bon, voir quelque chose de différent et voir ce qu'il pourrait faire avec ça.
Ok.
Voilà.
J'emmagasine tout ça et on va passer au deuxième pitch de la stressée. On va essayer de la détendre.
Franchement, je suis stressée de ouf.
On va te mettre des petites bougies, un petit massage.
C'est se dévoiler quand même. Hein.
Bah
c'est
non,
choses qu'on a créées.
Bah
enfin,
je
donc
sais,
on a
déjà, écrit... ça c'est dur. Et puis bah, l'autre, là, il y a Hermione Granger qui a tapé une thèse de 20 pages. Moi, j'ai genre des points. Genre, j'aimerais ça.
C'est pas
ça,
grave.
Ça.
Est-ce que tu as quand même une petite scène d'intro ou un petit teaser?
J'ai un teaser.
Eh bien, on va tout de suite t'écouter là-dessus.
Le teaser commencerait donc presque pas de son, nuit noire, nuit spatiale. On voit un vaisseau traverser l'écran, faire le tour d'une planète, se poser. C'est assez long vraiment, puis un peu ambiance pas rassurante, un peu type à la Alien, quoi, un truc qui rassure pas. On voit les astronautes descendre du vaisseau avec des appareils de mesure, des trucs pour prendre des photos, voilà, des trucs de la machine. On les voit poser leurs pas, observer, faire des relevés. Il y en a quand même deux, trois qui sont sur les côtés, un petit peu sur le qui-vive. Ils marchent. Ils voient une traînée verte sur le sol, ils s'arrêtent tous. On voit qu'ils font un signe un petit peu arrêt alarmé. Voilà, on voit passer une ombre entre deux rochers ou un truc comme ça. On voit un des cosmonautes qui sort une espèce de... un truc un peu qui peut transmettre ou porter les ondes, en tout cas porter le son, dans la direction où on a vu bouger quelque chose. Et on voit deux pieds sortir de l'ombre de ce rocher, marcher un petit peu véreux, des pieds un peu dégueux, des pieds moches, des pieds beiges. Et on voit, donc, c'est des cosmonautes, ils n'ont pas de visage, tu sais, vraiment le truc un peu transparent, complètement anonyme. Et donc, ils se dirigent le porteur d'onde vers ses fameux pieds, ils allument un bouton et on entend Indian Call Love de Steele Whitman. Voilà. Et on remonte le plan pour voir du coup le fameux martien qui regarde les trucs et la tête n'explose pas. Et là, du coup, on voit juste un gros plan sur la tête du martien avec leur sourire un peu dégueu. En mode... Et là, on a le titre qui apparaît, c'est Mars Attacked, ED. Will you answer to...
Okay. On sait où on va.
Pourquoi sans savoir que c'est un film de Tim Burton jusqu'au dernier moment sur l'idée de ce teaser. On ne se doute pas que c'est les Martiens de Mars Attacks.
Ouais, il faut. Fallait. Ok.
Faut une ambiance un petit peu genre des explorateurs de planètes sans vraiment savoir.
Film.
Pourquoi.
Alors, je vais te poser une question tout de suite avant oui. que tu nous expliques un peu plus. Tel que tu le visualises, film de 2020.
Oui.
Ok.
Enfin,
donc
aujourd'hui même.
Donc ambiance, vaisseau un peu plus réaliste. Oh,
complètement.
Okay.
Complètement. Tu vois, genre, machinerie moderne, voilà.
Okay. Ouais. Donc on pouvait croire que c'était un film de SF.
Exactement. C'était l'idée.
Et
en fait,
monte... okay.
cette grosse bébête qui est genre, mais no, je n'explose pas.
Ok. Ok.
Voilà.
Bien.
Donc pourquoi déjà je suis partie sur Mars Attack? Parce que je pense. Avec l'âge et tout, que c'est mon Tim Burton préféré. Parce que c'est le plus stupide. Parce que... Mais non, mais c'est vrai, et je le trouve... je trouve qu'il ne s'excuse pas de ce qu'il est, ce film. Je trouve que c'est un film où le casting s'amuse. Pour moi, c'est une merveille de voir des acteurs qui s'éclatent. Et là, c'est clairement ça. On leur a dit, bon, carte blanche. Donc voilà. Et j'ai toujours aimé l'histoire. J'ai aimé l'inspiration martien parce que c'est inspiré d'un jeu de société, d'un jeu de cartes des années 50. Donc j'ai aimé l'esthétique un peu hyper rétro du film de Martien. J'ai adoré le fait que ce soit un film choral, un film de survivants aussi. J'ai aimé l'humour parce que je le trouve hyper drôle, parce qu'il est bête, mais aussi parce qu'il est méchant. C'est un film qui est méchant. Et je trouve que ça colle particulièrement à l'univers de Tim Burton, parce que bon, l'esthétique des aliens déjà. Et puis ouais, ce côté un peu bête et méchant qu'il aime pour Beetlejuice, tu vois, pour des personnages types comme ça, qui je trouve collent vachement à ce que moi je vois de lui. Donc c'est pour ça que je suis partie là-dessus. Et en fait, je suis aussi partie là-dessus parce que je pense que c'est probablement son film le plus politique. Encore une fois, il est politique ce podcast, mais c'est vrai. Et que le premier Mars Attack, au moment où il est sorti dans les années 90, c'était une vraie critique de la violence américaine, notamment au niveau de l'armée, et de la politique américaine, un peu du « on accueille tout le monde, on est bienveillant, le land of the free » et tout. Et en fait, ils sont toujours à taper sur l'étranger, sur... voilà. Et c'est... De tous ces films, je pense, le plus proche de la politique actuelle et qui était le plus proche de son époque aussi au niveau de ce qu'il racontait. C'est peut-être, malgré l'attaque d'Alien, le plus réaliste dans les relations avec les gens, dans les personnages qui existent. Enfin, voilà, le plus ancré dans la réalité avec cette irruption de la science-fiction. En tout cas, pour moi.
Donc là, tu nous as bien expliqué pourquoi. Maintenant, qu'est-ce que t'en fais ?
Qu'est-ce que j'en fais ? Donc, l'idée, moi, sur laquelle je suis partie, c'est... C'est les 30 ans du M-Day, qui a été donc en 96. Donc là, on peut même partir, on est en 2026, c'est les 30 ans voilà, de la grande attaque alien.
On n'est pas loin, de toute manière.
On n'est pas loin, c'est pour ça. Je voulais en faire un jour un peu historique. Voilà. Et en parallèle de ça, donc, les Américains, le gouvernement américain, est sur le point d'aller faire donc, les premiers vrais atterrissages sur Mars. Parce que pour l'instant, on n'y a envoyé que des machines et que des rovers et des machins. C'est la première fois que les humains vont être envoyés sur place. Or, avec tout ce qui s'est passé, il faut prendre beaucoup plus de précautions. Voilà. Donc, c'est vraiment cette idée de bah, ça va être notre tour d'aller explorer. Depuis 30 ans, ils travaillent à ça, d'ailleurs. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller explorer cette nouvelle planète. Et puis, peut-être découvrir des martiens. Parce que certes, tous ceux qui étaient sur Terre sont morts, mais est-ce qu'il y en a d'autres là-haut ? Impossible de le savoir, à part les rovers et puis... On ne sait pas. En tout cas, les expériences, pour l'instant, ne sont pas concluantes. Dans cette période, on retrouve du coup les survivants du premier film. Donc, si vous vous souvenez des survivants, il y a Nathalie Portman, qui était la fille du président. Ta fille Dale, qui aujourd'hui est devenue présidente des États-Unis pour suivre les dignes traces de son père. Et qui, en plus, a été élue aussi parce que fille d'un héros, survivante de tout ça. Voilà, c'est elle qui avait décerné les médailles à Richie, qui est toujours dans sa vie, qui est son époux. Aujourd'hui, qui lui est devenu prof. En tout cas, il donne des cours sur les aliens, sur tout ce qu'ils ont appris d'ici là, et est consultant aussi pour la défense, voilà, avec tout ce qu'il a appris. Et puis c'est quand même grâce à lui. Exactement, et c'est quand même grâce à lui s'ils ont vaincu les Martiens. En tout cas, on est dans un climat politique un peu particulier, à savoir que ça va bientôt être la réélection. Et Nathalie Portman est un petit peu prise entre deux feux, en mode... elle ne veut pas forcément qu'on aille à la conquête de Mars, parce qu'elle, elle veut plutôt protéger la planète. Voilà. Mais je la vois plus démocrate, Nathalie Portman. Mais on a les Républicains menés par un Elon Musk. Il faudrait trouver un casting intéressant. Qui, lui, est pour la conquête de Mars. Il veut vraiment y aller, tu vois. Du coup. Donc, et lui qui essaie, du coup, et devient son adversaire un peu opposé. Là, on peut imaginer complètement un mec un peu détestable, un mix de plein d'autres personnages de Tim Burton. J'imagine un Beetlejuice un peu propre sur lui, mais avec dans le fond un Beetlejuice, tu vois. Bref. Et donc on a ce climat politique un peu particulier. On retrouve aussi d'autres personnages un peu secondaires, pas forcément qui auront un gros impact dans l'histoire, mais en tout cas c'est un des trucs que j'aimerais voir Pam Grier et Jim Brown, qui étaient du coup Leroy et Louise Williams, qui était du coup le couple noir qui survit avec leurs deux fils, donc eux retraités, voilà, qui vivent leur petite vie malgré tout ce qui s'est passé. Leroy continue à faire un peu des combats-rencontres en mode « Ah, moi j'ai survécu aux aliens voilà. ». Enfin, voilà, vraiment que finalement ce M-Day et leur est intégré de la fame malgré eux, tu vois. Annette Bening est devenue, elle a une chaîne sur YouTube, tu vois, en mode « Namasté, les aliens », machin et tout. Et Tom Jones, je l'imaginais complètement conspirationniste, tu vois, genre, voilà. En tout cas, les survivants sont là, ils sont toujours impactés par ce qui s'est passé, et le monde se reconstruit aussi autour
genre
de
Tom
ça.
Genre Tom Jones, c'est le nouveau Alex Jones.
Par exemple.
T'aurais pas grand-chose à changer.
Non, bah non.
Tu gardes le même décor, juste Tom à la place.
Pas sûr qu'il accepte, Tom Jones. Enfin, je suis pas sûr qu'on dit, bon, tu vas jouer un Alex Jones-like.
Oh, je sais pas, je pense que s'il y a de l'humour, il le ferait.
Ouais.
Enfin voilà, du coup je voudrais quand même garder un petit peu cette...
Que ces personnages réapparaissent. Donc.
Réapparaissent, voilà. Après c'est pas forcé qu'ils aient
un
rôle imminent.
Ça peut être un petit clin d'œil, quoi.
Oui, parce qu'en fait, je trouve que c'est un film qui a été injustement pas aimé, mal critiqué. Et du coup, des petites, tu vois, des petites hints, comme par exemple donc, la fameuse chanson qui sauve les aliens, que ça devienne la chanson nationale, tu vois, du monde, un truc comme ça, alors qu'elle est horrible. Mais c'est pas grave, c'est la chanson. Et que même, tu vois, on voit par exemple... que c'est devenu un méga remix, tu vois, genre un super DJ. Maintenant, il y a une version genre super techno de cette chanson. Enfin, bref, ça me ferait rire qu'il y ait cet imaginaire autour de ça. En tout cas. Donc, on est un petit peu dans ce combat entre les républicains qui veulent envoyer, du coup, vraiment sur Mars pour commencer à coloniser tout ça. Nathalie Portman qui dit, alors oui, mais on ne sait jamais ce qu'on peut trouver là-bas. Moi, je pense quand même à la Terre, aux gens, il faut quand même faire attention, etc. On envoie du coup quand même, malgré tout, une mission là-bas. On voit tout le monde donc, dans la salle de contrôle. Il y a Nathalie Portman, il y a le Elon Musk. Parce qu'en fait, j'imaginais un personnage qui est dans l'opposition politique, mais qui est quand même tellement, comme Elon Musk, influent dans la technologie. C'est lui qui finance, par exemple, cette mission spatiale. Donc, il est là quand même. Voilà. Et du coup, donc, ils reçoivent les images, tout ça. Il y a la fameuse scène qu'on voit dans le teaser où l'alien ne meurt pas. Et en fait, la caméra se coupe, la mission ne répond plus. Voilà. Donc, tout de suite, le Elon Musk, je pense qu'il faut partir en guerre, il faut qu'on y aille, etc. Et en fait, surtout, il se pose la question du pourquoi la musique ne marche pas là-bas, donc, puisqu'elle marchait ici. Et donc, du coup, ils organisent donc toute cette mission. Il y a un peu... Je voulais aussi un climat un peu de... Pas de guerre civile, mais je voulais que du coup les Américains, parce que c'est vraiment axé du point de vue américain, comme dans les autres de toute façon, il y a ceux qui disent non, vaut mieux protéger la Terre, vaut mieux pas qu'on y aille. Il y a les autres qui disent non, il faut y aller, il faut coloniser, il faut se battre, faut action préemptoire. Puis de toute façon, cette planète, ça pourrait être la nôtre, tu vois, le côté un peu conquérant, colonisateur. Voilà, toujours avec un peu quand même de blagues et de trucs un peu bêtes, mais bon. Et donc du coup, cette fois-ci, ça va être Mars Attack, parce que du coup, on va envoyer tout ce qu'on a en termes de flotte spatiale sur Mars. Sauf qu'en fait, sur Mars, les aliens nous attendent. Et pourquoi? Bon, j'avance aussi beaucoup parce que je ne suis pas allée entrer dans les scènes et tout ça.
C'est très bien, c'est très bien.
Une fois arrivé sur Mars, on se rend compte donc que les... Déjà, on voit un peu la planète et comme ils vivent. Donc là, j'imagine des trucs complètement barrés à la Tim Burton, justement, visuels et tout, de comment vivent les Martiens, avec beaucoup de blagues et de trucs peut-être qu'on pourrait... Enfin, des trucs qu'il y a chez nous, mais qu'ils ont chez eux, qui, voilà, qui sont du coup complètement détournés pour en faire des trucs rigolos. Ça pourrait être sympa. Et du coup, voilà, on se rend compte que les Martiens nous attendaient. Il y a quelques cosmonautes, qui arrivent, enfin, astronautes, soldats, du coup. Ça, c'est de nouveaux personnages que j'aimerais introduire. Des gens qui font partie d'une... Depuis qu'il y a eu le M-Day, il y a eu une branche du gouvernement qui s'est ouverte pour protection contre les Martiens, voilà, avec des GI un peu machin. Et en fait, c'est ces gens-là qu'on envoie sur la planète. À la première arrivée, il y a la moitié qui se font défoncer. Il y en a quelques-uns qui arrivent à s'enfuir. Et du coup, voilà, c'est comment ce petit groupe de survivants va essayer de s'en sortir en naviguant parmi les aliens. Et eux, en fait, se rendent compte que sur Terre, il y en a encore. Comme on voyait qu'il y avait Lisa Marie dans le premier qui arrivait à faire un déguisement d'humaine, plus ou moins. Et ben en fait, sur Terre, il y a quand même un ou deux aliens. Enfin, un ou deux, ou peut-être plus. En tout cas, il y a des aliens qui sont toujours parmi les humains depuis 30 ans. Et qui, en fait, n'attendaient que ça, qu'on les envoie. Donc, il y avait quand même le lien avec les autres, mais qui attendaient que les humains soient suffisamment développés technologiquement pour aller sur Mars et offenser, enfin, faire une contre-attaque, offenser, etc. Et du coup, j'étais partie peut-être sur l'idée que le fameux Elon Musk était l'un des leurs, bien sûr. Parce que voilà.
Et comment ils survivaient, donc, à la chanson ?
Ah, ben alors ça...
S'ils étaient sur Terre.
Non, alors, non, mais c'est ça. Alors, sur le moment, je me suis dit, s'ils étaient déguisés en humains, parce qu'on a vu que Lisa Marie, mais sur toute la planète, comme ils ont attaqué toute la planète...
Oui, il y avait certainement...
Oui, mais Lisa Marie, on ne la tue pas avec la musique, par exemple. Je crois qu'elle se fait tirer dessus. Donc, je me suis dit, peut-être qu'en costume d'humain, ils sont imperméables à ce côté musique.
Okay.
C'est Tim Burton, c'est Mars Attaque. Okay. Il n'y a pas de raison. Je vous rappelle qu'on ne sait pas pourquoi ils attaquent dans Mars Attaque.
Oui, oui, oui.
Donc je suis partie sur les trucs où on n'a pas de réponse. Ce n'est pas grave. Parce que c'est un peu bête et c'est un peu fun. En tout cas, moi, je me dis que ça ne me gênerait pas, c'est marrant. Enfin bref, du coup, on a ce petit groupe d'aliens qui, en fait, œuvrent de l'intérieur des gouvernements pour envoyer les humains là-haut et puis reprendre un peu de pouvoir et un petit peu, on peut imaginer que les aliens qui restent là-haut, comme la plupart de leur artillerie est venue sur Terre pour attaquer avant, ils n'ont plus grand-chose, mais ils survivent. Et qu'en coup, ils attendent toute cette technologie des humains pour pouvoir prendre et puis retourner en mode méga vengeance. Mais j'imaginais quand même une fin heureuse, parce que de toute façon, c'est toujours plus marrant ça, mais que du coup, les cosmonautes qui sont restés là-haut arrivent à anéantir... cette espèce de lien qu'ils ont entre eux deux, ça pourrait être une construction, une radio, un truc machin, qu'ils arrivent à exploser ça, ça coupe complètement le lien qu'ils ont avec ceux qui sont restés sur Terre. Ils s'occupent de détruire cela, et du coup, sur Terre, on s'occupe des derniers, et on les détruit, etc. Mais j'imaginais du coup qu'à partir du moment où on sache que finalement, sur Terre, il y a encore des aliens, que ça provoque chez les humains une méfiance de leurs voisins. Parce que je trouve qu'aussi Mars Attaque, pour ça, c'était cool. C'est comme c'était sur le comment vivaient les Américains aussi dans les années 90. On en voyait vachement ça, parce qu'on voyait toutes les différentes strates économiques aussi. On voyait des gens riches, la conductrice de bus à la place. Enfin, tu vois. Et du coup, de là, de dire que les Américains ont peur de leur prochain, parce que c'est clairement ce qui est en train de se passer en ce moment. Et du coup, voilà, de mettre en parallèle le côté peur de ton prochain, du « t'es un alien, mais n'importe quoi !» J'ai rien fait, tu vois, genre « elle a une tête bizarre, elle a une tête vachement ronde !» Tu vois, enfin, ça pourrait faire des blagues en modèle « elle a vraiment une tête chelou, comme dans les films de Tim Burton. Elle a juste une tête chelou,
ouais, c'est pas une alien. » Ouais, tu pourrais avoir un montage de trucs où les gens
exactement.
Se méfient. Ouais. Des enfants qui se méfient de leur mère, des trucs
mais comme c'est ça, tu vois, et du coup, ça aurait été drôle de faire ce genre du... En fait, tu peux même pas croire ton prochain, enfin ton voisin. Et voilà. Et du coup, sur quoi j'étais... Ouais, non, je crois que c'était à peu près tout.
Moi, je vais avoir une question assez importante.
Oui, je me doute. Attends, je regarde juste si j'ai oublié quelque chose sur... Bon, vas-y.
Moins 10 points.
Elle, elle répond.
Non, j'ai une question un peu importante qui est... Et ça, c'est un truc que je n'ai pas compris pour l'instant dans ton pitch. Qui sont tes persos principaux? Parce qu'on a bien compris que le perso Natalie Portman est devenue présidente, mais là, elle ne va pas faire partie des gens qui partent sur Mars.
Non.
Donc tout l'aspect aventure Starship Troopers sur Mars, mais avec les martiens de Mars Attack, super, mais qui y est?
Non, bah, alors,
qui est-ce qu'on suit là-bas?
Ce que j'ai essayé aussi de me dire, ce que j'aimais dans le Mars Attack, c'est qu'il n'y ait pas de personnage principal.
Ouais.
Mais que du coup, c'était vraiment le côté film choral. Et du coup, j'imaginais vraiment qu'on avait donc ce petit groupe de GI un peu en carton qu'on envoie sur Mars, qui en fait, finalement, depuis le M-Day, ils n'ont jamais eu d'autres aliens, d'autres interactions aliens. Donc en fait, c'est genre... Puis, c'était il y a 30 ans, ça peut être des gamins de 30 ans qui sont genre, oh, moi je sais pas du tout comment ça marche, du coup ça pourrait être aussi un peu rigolo. Donc on a ce petit groupe de soldats là-haut qui peuvent être des femmes et des hommes. On a quand même tout ce qui se passe dans la cellule politique de Natalie Portman et Lucas Haas qui peuvent se dire, lui qui lui dit, il faut vraiment que tu résistes contre l'attaque de Mars. Elle qui se dit, ouais, mais les sondages sont pas bons, si je veux remonter, il faut que je fasse plaisir au public. Donc voilà. Et tu pouvais avoir aussi suivre quand même les quelques survivants qui suivent ça avec leur vécu d'il y a 30 ans.
Ouais, ouais, mais est-ce que tu as... Comment dire ? Si tu veux, les persos de Mars Attack avaient quand même un élément un peu commun, on va dire, c'est d'être un stéréotype de l'Amérique. Mm. Est-ce que tu as des nouveaux stéréotypes de l'Amérique ? On va peut-être pouvoir suivre le temps de 3 scènes, tu vois, peut-être 2 scènes.
En ça, je trouve que le personnage du faux Elon Musk, c'est un peu ça, le côté nouveau riche.
Ouais, mais c'est le seul nouveau perso, j'ai l'impression.
Bah, il y a le groupe de GI qui est, enfin, le groupe de astronautes GI qui est là-haut. Après, non, on peut éventuellement.
Il y a Tom Jones qui devient conspirationniste.
Oui, oui, mais ça, c'est.
Mais ça, c'est des vieux personnages.
Ouais, mais c'est un nouveau stéréotype, entre guillemets, des Américains d'aujourd'hui, le conspirationnisme.
Oui, et puis pareil pour l'influenceuse YouTube, ça peut être Annette Bening, comme ça peut être en fait quelqu'un d'autre qui commande de ses yeux avec les technologies d'aujourd'hui, les Instagram, les. Comment on réagirait aujourd'hui justement sur ce côté il y a des aliens finalement peut-être chez nos voisins, tu vois. Et après je suis pas partie sur des personnes, même si t'as raison, c'est des stéréotypes de l'Amérique, mais aujourd'hui je suis pas sûre que ça fonctionnerait autant. En fait je suis plus partie sur des comportements stéréotypés que sur des personnages.
C'est juste que là en termes de pitch, c'est moins évident. Je pense que Mars Attack a aussi été un peu pitché en disant c'est une invasion extraterrestre vue depuis le président des États-Unis, depuis les rednecks, depuis une meuf hippie, depuis un beauf de Las Vegas, depuis une famille normale divorcée.
Oui, mais là, ça peut être un petit peu. C'est vrai que
c'est juste que j'aurais bien aimé.
Oui, oui, j'ai moins développé sur les personnages, c'est vrai, je te l'avoue. Mais c'est vrai que oui, je voulais peut-être le groupe de GI qui sont du coup les trentenaires qui ont entendu parler mais qui ne l'ont pas vécu et qui aujourd'hui sont en première ligne et du coup doivent uniquement faire avec ce dont ils ont entendu parler, tu vois, finalement. Parce qu'on les a formés. Tu vois, cette branche du gouvernement, je voulais imaginer que ce soit des mecs à qui on montre des vidéos et on les entraîne, mais en fait, ils n'ont jamais vécu le truc et c'est tellement improbable ce qui s'est passé que voilà. Mais c'était vraiment jouer peut-être sur les réactions stéréotypées d'avoir peur de ton voisin, de vouloir conquérir à tout prix et continuer la colonisation, tu vois. Et voilà. Après, j'imaginais qu'on pouvait jouer avec plein d'autres choses pour dénoncer d'autres stéréotypes.
Une toute dernière question,
oui,
avant qu'on passe au débrief de Bruno, qui va faire son choix.
Ah, oui, pardon. Il y avait une autre blague qui m'aurait fait rire.
Ça va peut-être être en rapport avec mes questions. Puisque Mars Attack, c'est beaucoup d'images marquantes, puisque beaucoup de scènes sont inspirées des petites cartes. Mm. Est-ce que tu as une ou deux scènes gag, on va dire, peut-être, ou un visuel un peu marquant que tu as en tête ?
J'aurais adoré qu'il y ait, du coup, eu dans les 30 ans une version film, un peu comme Stab dans les Scream de Mars Attack, tu vois. Et que, du coup, même dans la chambre, il y a des gamins qui ont des posters, genre, tu sais, des cinéphiles, où, tu vois, j'aurais voulu qu'il y ait ce côté. Alors... ça a été un truc horrible pour le monde, mais on en a fait de la pop culture quand même.
Ce qui est...
Et là, tu pourrais foutre pas mal de... Un John Cena en Lucas Haas
avec les
cheveux.
Mais ouais, tu vois, exactement.
Et puis la grand-mère, c'est Meryl Streep, tu
mais
vois.
Mais oui, exactement. Et imaginez, voilà, que dans un cinoche, ou avant qu'ils partent, tu sais, le groupe en guerre, ou je sais pas quoi, où ça passe à la télé.
Ça peut être juste après l'écran titre.
Oui.
T'arrives.
Ouais,
exactement. Austin Powers, toi.
Ouais, tu vois...
On en revient.
Tu revois des scènes du premier, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, c'est le premier. Mais en fait, y a toute la différence avec les acteurs.
C'est des acteurs. Et là, tu peux mettre pas mal de caméos. Ok. Je vais faire un petit débrief.
Ok.
Sachez que c'est deux films que j'aimerais voir.
Ah. Bon, déjà.
D'un côté, moi, le comeback. Je fais partie, comme toi, des gens frustrés de me dire. J'aurais bien aimé encore d'autres Batman de Burton. De l'autre côté, j'aime beaucoup le mélange Starship Troopers. Pour moi, j'ai vraiment visualisé Starship Troopers avec les Martiens de Mars Attack.
Exactement.
En fait. Et un peu une parodie de l'invasion des profanateurs de sépulture.
Exactement.
Vraiment, j'étais dans ce mélange des deux trucs. Et en plus, c'est assez burtonesque de dire de faire un remake de ce truc des années 50, mais en mode on se méfie tous de nos voisins, sauf que c'est les Martiens de Mars Attaque. Donc ils sont peut-être beaucoup plus reconnaissables que ce qu'on imagine, mais comme c'est des ricains qui sont cons, dès qu'il y a une personne un peu différente, il fait.
Exactement. Tu vois. Elle a une grosse tête.
Donc j'ai vachement visualisé.
Avec genre
ça,
un martien bien visible qui dit il est pas bizarre.
Oui, c'est ça, exactement.
Oh oui, oui. Non, mais juste il pointe comme ça. Mais...
Hac.
Il met un petit coup de coude dans le diner. En...
Mais t'as raison. T'as raison, Roger.
Donc j'ai vachement visualisé quelques scènes. Je me suis fait un film dans ma tête aussi. Dans les défauts. Enfin, dans les défauts, attention. Dans les trucs qui me plaisent peut-être moins, où je me dis, bon... Il y a un point originalité qui manque un peu du côté de Joel. Forcément, mm-hmm. Dick Grayson, je connais.
Ouais.
Double Face, je connais. Tous ces points-là, forcément, je savais où on allait aller. Au final,
bien sûr.
J'ai pas eu de surprise, on va dire. De l'autre côté, Tim Burton et son cynisme des années 2020, c'est quand même moins là. Et j'ai presque eu des fois l'impression que tu me pitchais un film de Paul Verhoeven.
Non, mais après, on est parti dans l'imaginaire où ce serait le film de nos rêves.
Évidemment, évidemment, évidemment. Voilà. Mais c'est juste que comme on l'a placé en 2020, oui. j'ai eu ce truc-là. Et je me suis dit, le satirisme très marqué, bah comme tu le dis, Mars Attacks, c'est presque son film le plus politique. Au final, c'est pas non plus extrêmement politique. C'est juste son plus politique. Là, de ce que tu me racontes, il y a vraiment... On se moque des ricains, quoi. Putain, vas-y, c'est vraiment des
teubés. Dis donc, c'est pas un peu politique, ce podcast.
Mais moi, je trouve que le premier... parce que je l'ai revu, du coup. Et en fait, il se moque de ouf.
Ouais, ouais, mais... Ouais. Là, de ton pitch,
oui,
j'ai eu plus un film Paul Verhoeven des années 90, de un truc... Vraiment, j'ai visualisé ce truc-là. Mais il faut que je fasse un choix. Et on va préciser ce qui a gagné, puisque les auditeurs ne savent pas ce qui a gagné. Calmos, hein, on n'a pas de budget à éteindre la lumière corp. Ce qui a gagné, c'est le fait d'être à ma place la session prochaine et dès la fin de cette émission, nous imposer le futur thème pour le prochain enregistrement. La question, c'est est-ce que c'est Ron ou Hermione qui gagne ?
What ?
J'adore Ron, c'est bon.
Mais oui, mais il est genre hyper mauvais élève, je le prends hyper mal.
Là, pour le coup, t'es plus Harry, quoi. C'est genre...
Je copie sur mon voisin, Harry, c'est... Je suis obligé d'attendre.
Mais pour moi, Ron, il copie sur son voisin. Et il s'en sort, il a quand même... Oh.
Ça veut dire que j'ai pas gagné.
Laisse-moi réfléchir. Ne commencez pas à me manipuler l'esprit.
J'ai absolument rien dit, c'est horrible, là.
Et puis alors, dénonce comme Hermione.
Non, je crois qu'il y a un film où je suis plus curieux de voir ce que ça peut donner. Et je pense que c'est la suite de Mars Attack.
Mais non ! Ah !
Pour la simple et bonne raison, vraiment, que ce que tu m'as décrit, je le visualisais, tu vois, parfaitement.
Mmh.
J'arrivais vraiment à visualiser ce que tu me décrivais. Et j'ai pas eu ce moment, à part ce moment... Moi, ça m'a manqué le côté burtonesque parce que... Je suis plus sensible à Batman le défi.
Oui, non, mais voilà, après.
Qu'à l'autre. Et j'aime bien le côté origin story très monstre et le truc très absurde, tu vois. Tu vois, là, ça m'a manqué un côté pingouin qui a mille parapluies, c'est jamais le bon et machin. La manière dont tu m'as pitché ce double face, je me suis dit, c'est un méchant qui va m'ennuyer un peu. Peut-être pas m'ennuyer, mais il manque un truc de fantasy. Il manque un jeu avec ses pièces, il manque un truc de... Vraiment, en fonction de la pièce, il est extrêmement gentil ou extrêmement méchant. J'en sais rien. Il manquait une excentricité. Le pitch d'Aurélie, il y a eu des zones de flou, je suis complètement d'accord. Mais ça m'a amené à me réfléchir, à me dire « Ah mais ouais, on pourrait faire un truc comme ça. » J'ai même réfléchi à un titre, j'ai peut-être un titre meilleur.
Vas-y, oui, parce
meilleur,
que le titre, je trouvais
parce
pas.
Que c'est Mars Attacks. Et moi,
Attacked.
Je ferais... Ouais, non, mais le premier, c'est Mars Attacks. Et je ferais Earth Strikes Back.
Ouais, c'est
tu
vrai,
vois
c'est vrai.
Et genre, vraiment, avec le drapeau ricain en mode... et qu'en fait, ils vont se faire humilier direct. Tu vois, je me suis vraiment dit un truc, une affiche un peu prétentieuse. Ouais. Eh oui, ça va se faire une nouvelle fois, peut-être un peu plus Verhoeven que Burton. Je visualisais les spots de Starship Troopers, quoi. Ça fait partie du problème que j'avais un peu avec ce pitch-là, où je me suis dit, je vois plus Verhoeven que Burton, mais... Il y a des trucs que j'ai envie de voir. Il y a vraiment des idées. Et pareil, là, ça a pas mal joué, le petit délire qu'on s'est fait sur le martien qui met son petit couteau. Et je fais, ça me fait rire et j'aimerais bien voir cette scène. Et ça a joué parce que je me suis dit, il y a plus de possibilités. Voilà, c'est le malaise.
Non.
Non, dans les deux cas, j'avais envie de voir le film. Oui, dans les deux cas, je me suis dit, j'ai envie de voir les deux. C'était plus un angle de on va pouvoir plus s'amuser avec ça qu'avec l'autre côté où peut-être trop de ref au cartoon ou des trucs comme ça où je me dis ah, il a pas apporté son petit truc en mode non, en fait tu vois dans le cartoon c'est ça, et ben moi je fais pas ça.
Non, mais aussi
c'est
parce
Barbara
que Batman,
qui devient double face.
Parce que Batman, ça a beaucoup de codes aussi.
Oui, voilà.
C'était le problème.
Ouais. Après, je l'ai dit, hein, mon pitch, ce serait un Batman plus safe que
ouais,
Batman
ouais,
de défi.
Bah, bien sûr. Oui, j'ai compris que c'était ton angle. Mais dès que j'ai entendu ça, je fais « Ok, on va voir. » Parce que j'aurais aimé le petit grain de folie. Aurélie, tu as donc remporté ce premier épisode à ta grande surprise parce que tu nous as passé toute la journée à nous dire ça va être nul, moi je vous dis, j'ai une feuille recto verso.
Bah c'est vrai. Et puis tu vois, il y a des fois il y a des genre Portman, des fois il y a As tout seul.
J'ai un nom pour ton Elon Musk.
Vas-y.
Il a déjà joué à Elon Musk dans une série, c'est Billy Magnussen.
Oui, bah complètement. Non, mais après, j'avais pas non plus de nouveaux castings, tu vois, j'étais genre...
Ça m'a manqué.
Ouais, je comprends.
Des nouveaux persos, des nouveaux castings, oui, oui. Savoir qui on allait... Il fallait me citer un GI un peu particulier,
oui,
tu
oui,
vois,
c'est vrai.
Qui est parti en guerre. Il y avait d'autres questions que je me posais, hein, typiquement. À la fin de Mars Attack, c'était l'impression que la Terre, elle est à moitié détruite quand même. Comment est-ce qu'ils se sont reconstruits, comment... Mais la justification d'un perso à Elon Musk qui peut-être est arrivé en mode « Moi, j'ai... » Il était peut-être dans son bunker il y a 30 ans, tu vois, qui est ressorti en mode « Moi, j'ai plein de sous, j'ai plein de trucs, et c'est comme ça qu'il a gagné du pouvoir. » En fait, je trouve que ton pitch m'a amené à me creuser la tête. Et ça m'a fait imaginer des scènes. Est-ce que tu as donc une idée de thème sur lequel Joël et moi, on va s'affronter ?
J'ai pensé à une idée, en bonne bibliothécaire que je suis, puisque je suis entourée de livres toute la journée. Moi, j'aimerais bien que vous puissiez me pitcher une histoire autour d'un livre, enfin, où le livre est élément principal de l'histoire. Et ça peut être n'importe quel genre. Ça peut être comédie romantique, ça peut être film d'épouvante, vraiment. Mais en tout cas, où le livre... Le film ne peut pas se faire sans ce livre au centre de l'histoire. Ça peut être un livre-personnage, enfin bref.
Ok.
Voilà.
Je vais me forcer à ne pas tricher, parce que j'ai une histoire que j'ai écrite il y a quelque temps,
ah
où un livre est au cœur de l'histoire, je promets de ne pas l'utiliser.
Ok, non bah après...
Non, je promets de ne pas l'utiliser, j'ai déjà un récit vraiment écrit là-dessus. Ok. Eh ben, on se retrouve la prochaine fois. Bon courage. J'espère en tout cas que ce format vous a plu. N'hésitez pas à le partager. Et
ce format qui s'appelle ?
Qui s'appelle Pitch-moi si tu peux.
Hey,
exact.
On a mis 1000 ans à trouver un titre qui nous satisfait.
Qui nous plaît pas.
Moyen, mais ça nous satisfait quand même. Voilà, n'hésitez pas à nous faire des suggestions si ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à peut-être nous suggérer des invités. Ce serait rigolo de faire ça avec des gens qui ont peut-être un peu la fibre d'écriture dans le sang et qui n'osent peut-être pas imaginer des petites histoires. Voilà, on se dit rendez-vous très vite et puis on va réfléchir à tout ça. Un livre au cœur de l'histoire. Je vais écrire la Bible 2, je crois.
Si je refais l'histoire sans fin, est-ce que ça va être...
Ça peut être un reboot. Ça peut être la momie 3. Non, 4, maintenant.
Ok, oui. On fait ce qu'on veut.
Ouais.
Ok.
Juste un bon livre au milieu.
Allez, la bise.
Bye.
Ciao, bye bye.